Le matin. Ben oui.
15 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là, on est avec vous jusqu'à 10h. Jeff Fortin, Maxime Larouche, mon nom c'est Marceau. Il y a Antonine Iacarini qui se joint à la discussion. Salut Anto!
Allô!
Comment ça va?
Ça va bien!
Ouais, tu passes-tu un beau moment ces temps-ci?
Ben écoute, je m'ennuie pas, on va dire ça comme ça.
On a appris hier que si jamais le Canada était envahi par les États-Unis, ça allait pas prendre une semaine, ça allait prendre deux jours et tout était terminé, tu devenais américaine.
Oh mon Dieu, ouais. C'est tellement le contraire.
Et là, j'avais un Jeff à mes côtés qui était prêt au combat en disant « Je vais mourir pour ma patrie ».
Oui, moi, honnêtement, je meurs en patriote. Mes enfants vont être fiers de moi quand le drapeau canadien va être sur ma tombe, mais qu'ils vont encore avoir leur lopin de terre.
Et moi, j'y ai dit « Tu serais peut-être mieux d'apprendre à tricoter un drapeau blanc ».
Oh, mon Dieu. Non, mais attends, c'est fake news. Là. Je veux juste que les gens soient très clairs là-dessus. Là. Je ne collaborerai pas avec les Américains. Je ne serai pas une collabo.
Il y a des gens qui ont dit ça?
Non! C'est juste que ça portait à confusion, ce que tu dis.
Non. Moi,
Toi, t'as dit ça.
J'ai dit à Jeff, tricote un drapeau blanc, là. On t'offre pas deux jours.
Hey, là, on va pas déjà concéder la victoire, là. Ben, ça n'a même pas commencé.
Ah, non, on concède pas la victoire. On se bat jusqu'à la dernière goutte.
Merci de te joindre à la discussion, parce que dans les prochaines secondes, on va jaser avec le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Je veux parler avec toi 30 secondes de Davos. Est-ce que tu étais fier de ton premier ministre du Canada qui a étalé sa vision du monde en disant, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Il a appelé à certains pays à se rassembler pour justement tenter de tasser un peu les États-Unis.
Ben, écoute, je suis pas la personne qui lance le plus de bouquets de fleurs à M. Carney dans le quotidien, mais je dois dire que c'était un bon discours. Pour moi, c'est un sans-faute. J'ai entendu quelques anciens diplomates, des intervenants dans l'espace public dire qu'on était peut-être un peu trop provocant avec les États-Unis. Moi, je suis en désaccord. Il fallait être assez ferme. Il faut être ferme. Je pense que son message était bien balancé. Puis comme passionné de communication politique, c'est un bon discours. Tu as donné l'exemple de si on n'est pas à table, on est au menu. C'est des belles images. Là. Ça fait des bons discours. J'aurais aimé peut-être une petite partie en français, mais bon, écoute.
On a le plaisir de jaser avec le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui est au bout du fil. Bienvenue à Québec, M. Poilievre.
Oui, merci de l'invitation.
Comme dirait l'autre, il fait pas chaud pour la pompe à l'eau.
Oui, c'est vrai. On est en route maintenant à Montréal.
Mark Carney qui a fait appel à l'unification des forces pour les pays de moyenne taille ou de puissance moyenne. Est-ce que ça marque le début du renversement de l'ordre mondial, selon vous, M. Poilievre?
J'espère qu'on va pouvoir travailler plus avec les autres moyens de pouvoir. Évidemment, nous avons déjà des ententes de libre-échange avec tous les pays européens, avec presque tous les pays de la Pacifique. Donc, on a déjà un accès à ces marchés-là. Le but pour nous, par contre, c'est d'enlever les barrières à cet échange, à cet commerce international que nous nous imposons. Les tarifs que nous nous imposons ici au Canada, comme le fait que ça prend 19 ans pour approuver une mine, que nous avons le deuxième plus long permis de construction pour les grands projets ici au Canada, qu'il n'y a pas de pipeline ni d'usine de liquéfaction pour envoyer notre gaz et pétrole outre-mer. Donc, ça force les Canadiens à vendre, à roper nos exportations à prix plus bas. Donc, il faut que si le gouvernement fédéral se tasse du chemin pour nous permettre à envoyer nos ressources et de payer pour ces ressources ici au Canada. Ça nous donnerait une diversification, autosuffisance et évidemment un dollar plus fort pour une vie plus abordable en même temps.
Donc, vous voudriez que ça aille plus rapidement, mais est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes quand même d'accord sur le fond des choses par rapport au discours de M. Carney hier, qui a été quand même salué par pas mal de gens, sur le fond des choses? Là, est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations de M. Carney hier et sur les termes « rupture de l'ordre mondial »?
Je suis surtout d'accord avec sa déclaration qu'il y a un écart entre, et je cite, entre la rhétorique et la réalité. Et je pense que c'est vrai ici au Canada aussi, après son 10 mois, 11 mois au pouvoir, on voit cet écart entre la rhétorique et la réalité. tous les lois anti-développement, anti-ressources libérales sont toujours en place. Il n'a pas approuvé une pipeline. Le déficit est doublé. Le coût de la vie, le coût de l'épicerie augmente deux fois plus rapidement ici au Canada qu'aux États-Unis. Et on mène le G7 en termes d'inflation alimentaire. Donc, oui, il y a des grands discours, des grandes présentations, des grands tapis rouges, mais en fin de compte, il faut se concentrer, comme M. Carney a dit, sur la réalité des choses au lieu de se concentrer seulement sur la rhétorique.
En 30 secondes, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait autrement que ce que Mark Carney a fait hier?
Dans le discours?
Oui.
Moi, j'aurais présenté un plan pour pouvoir exporter nos et de vendre nos ressources outre-mer, parce que il faut convertir les mots en action, et les pays ont besoin de notre gaz naturel, par exemple, pour bloquer la dépendance sur la Russie en Europe et pour donner plus d'indépendance énergétique des pays de moyen pouvoir. Donc, ce serait un focus que j'aurais eu dans un discours comme ça.
Monsieur Trump est en train de faire son discours devant justement les gens au Forum économique de Davos et il vient de déclarer « Le Canada est en vie à cause du marché américain ». Rappelez-vous ça avant de faire des discours. Vous réagissez comment à ça?
Il faut briser notre dépendance sur les Américains. Maintenant, 80% de nos exportations vont vers les États-Unis et on peut diversifier. J'ai mentionné plusieurs idées. J'ai une autre, c'est d'éliminer la taxe sur les gains en capital pour ceux qui réinvestissent au Canada. Vraiment avoir une liberté d'échange, de commerce entre nos provinces. Avoir des permis les plus rapides au monde pour l'infrastructure de l'exportation. C'est comme ça qu'on va pouvoir diversifier.
Est-ce qu'au niveau géopolitique, Donald Trump va trop loin en mentionnant ceci parce que c'est une attaque directe envers le Canada et sa souveraineté?
Oui, j'ai pas entendu ces mots, parce que je suis en train de faire l'entrevue, mais je pense qu'on doit aussi voir au-delà des trois premières années parce que M. Trump ne sera plus là d'ici 2029. Et on doit travailler avec les Américains de bonne foi, qui sont au Congrès, au Sénat, les gouverneurs, les entreprises, pour rebâtir et réparer le dommage fait pendant les années Trump, parce que c'est une relation qui date des centaines d'années et ils sont notre voisin, l'économie la plus grande au monde. On va pas facilement remplacer les États-Unis avec un autre marché. Donc, oui, il faut diversifier, il faut être plus autonome, mais il faut travailler avec les Américains de bonne foi pour l'après Donald Trump, afin de préparer l'avenir.
Dernière question sur M. Trump. Question qui se répond par oui ou non, donc très, très courte. Est-ce que Premier ministre Pierre Poilievre aurait été cette semaine à Davos?
Moi, je n'ai jamais supporté la réunion à Davos parce que je pense que c'est un peu loin du peuple. Je pense que les gens sur le terrain, ils souffrent de l'inflation, qu'ils ne peuvent pas acheter leur bœuf.
Mais le contexte actuel est quand même particulier, là.
Oui, il est particulier. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de forums dans lesquels on peut travailler avec des pays à travers le monde, mais qui est plus connecté à la réalité des quotidiennes de monsieur et de madame tout le monde. Et c'est ça l'approche que je prendrais.
Pour diversifier nos partenaires, est-ce qu'un Pierre Poilievre, comme premier ministre du Canada, aurait fait affaire avec les Chinois? Est-ce qu'il aurait fait affaire avec le Qatar? Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée de Mark Carney?
Vous parlez de deux pays. Premièrement, je ne permettrai pas à la Chine d'avoir plus de contrôle sur notre avenir et sur notre technologie. C'est un pays, c'est un gouvernement qui a déjà été trouvé coupable d'avoir ingéré dans nos élections, d'avoir eu des postes de police ici au Canada d'espionner le Canada. Donc, on ne peut pas dépendre d'un tel régime. Donc, je pense que nous sommes trop loin avec ça. Quant à Qatar, le Qatar, c'est une source d'investissement. Puis, je ne suis pas contre l'idée de faire affaire avec eux. Mais il faut aussi être réaliste. Quand on voit des ententes que M. Carney dit avoir signées, pas des vraies ententes qui obligent aucune action. Si vous lisez les mots, ça dit clairement que c'est pas contraignant de façon légale. Il y a aucune valeur qui est vraiment consacrée. Donc, je pense que c'est bon d'avoir des réunions, mais on passe maintenant de la rhétorique à la réalité. Et la réalité, c'est que la seule façon qu'on va pouvoir vendre nos produits à l'outre-mer, c'est d'enlever les blocages que nous imposons.
Les États-Unis, Monsieur Poilievre, étaient les maîtres du monde. Ils faisaient respecter le droit international. Là, maintenant, on bafoue le droit international. Je les voyais un peu comme les shérifs maintenant. C'est les cow-boys de la planète. Est-ce que le Canada pourrait être au menu de Donald Trump après le Groenland si jamais Donald Trump réussit à mettre la main à force de négociation ou de prendre le pays de force? Est-ce qu'on pourrait être au menu de Donald Trump? Puis on se prépare comment?
Le Canada sera toujours un pays souverain et indépendant. Pour nous assurer cet avenir, il faut être plus autonome de façon économique et militaire. C'est pour ça que je veux introduire à la Chambre des communes une loi sur la souveraineté canadienne qui nous obligerait d'enlever les blocages gouvernementaux pour produire plus de nos ressources naturelles, d'avoir des expansions à nos ports pour pouvoir avoir accès à les autres marchés. Et aussi de rebâtir notre militaire. Moi, je propose 3 bases militaires dans le Grand Arctique. On en a 0 maintenant. 0 bases militaires dans l'Arctique canadienne depuis la guerre froide. Et 300 soldats dans l'Arctique. 300. Pour un territoire qui est beaucoup plus grand que la grande majorité des pays au monde. Donc, il faut rebâtir notre militaire pour notre autonomie et pour notre avenir.
Je reviens chez nous. Vous étiez de passage à Québec hier. Vous êtes en train de repartir. Vous êtes venu régulièrement au Québec dans les dernières années. En fait, depuis que vous êtes chef du Parti conservateur, vous investissez oui. du temps au Québec. Vous avez déjà étudié au Québec. Vous avez une relation avec le Québec. Lors de la dernière campagne électorale, vous avez présenté une plateforme pour le Québec qui était ni plus ni moins que la liste d'épicerie du gouvernement du Québec. Là, il y avait beaucoup de choses là-dedans qui sont très populaires auprès de la population québécoise. Vous parlez beaucoup français, vous venez voir nos médias, vous êtes en entrevue encore ce matin avec nous et on l'apprécie beaucoup. Comment ça se fait que le Parti conservateur du Canada n'arrive pas à faire plus de gains au Québec malgré tous les efforts que vous faites? C'est quoi votre hypothèse?
C'est une bonne question. On était heureux d'augmenter notre support. On a eu notre plus grand parti du vote, pourcentage de vote depuis 20 ans, et l'un des plus grands montants total en termes absolus de vote au Québec. Mais vous avez raison, il faut en faire davantage. Moi, je vois une grande opportunité parmi les jeunes. Selon les sondages, les conservateurs, sous mon leadership, mènent parmi les jeunes. Et j'étais à un restaurant à Québec hier soir et j'ai rencontré beaucoup de jeunes là-bas. Ils veulent une maison, ils veulent fonder une famille, lancer une entreprise, acheter la nourriture, payer un gym pour faire un entraînement avec Gabriel Harvey, l'un de nos députés. Il est un propriétaire d'un centre d'entraînement. Et les jeunes là-bas, ils me disent vouloir bien manger pour la santé. Ils sont en gym, après tout, mais ça coûte trop cher. Nous sommes le seul parti qui offre de l'espoir aux jeunes d'avoir un bel avenir et que leur travail sera récompensé. Donc, notre stratégie, c'est très clair, gagner les jeunes Québécois.
S'il y avait des élections demain matin, Paul Saint-Pierre Plamondon serait premier ministre du Québec. On a promis une question sur la souveraineté dans le premier mandat. Si jamais un Pierre Poilievre devient premier ministre du Canada, dans cette situation-là où un Paul Saint-Pierre Plamondon prend place, vous allez tenter de convaincre les Québécois comment que le Québec doit rester dans un Canada fort et uni?
Tout d'abord, je dirais que le nationalisme québécois fait partie du patriotisme canadien. Donc, on peut être fier de la nation québécoise, on peut garder et protéger la langue française, la culture québécoise, l'identité unique et spéciale du Québec, en faisant partie du Canada, et tous les Canadiens à travers le pays peuvent être fiers du fait que ce nationalisme est accommodé au sein d'un pays uni. On devrait réduire le gouvernement fédéral pour donner plus d'autonomie aux Québécois et à tous les provinces. Et aussi, je vais revenir sur la question des jeunes, parce que selon les sondages, c'est les jeunes au Québec et en Alberta qui voient vers, qui considèrent la souveraineté versus l'unité nationale. Et je comprends pourquoi, parce que le gouvernement fédéral a dit depuis 10 ans, il n'y a pas d'identité canadienne, on est un pays post-national, il n'y a rien qui nous unit, notre histoire est terrible. Et en même temps, on dit, vous ne pouvez pas acheter une maison où, peu importe combien vous travaillez fort, vous ne pouvez pas avoir une telle vie. Donc, c'est déprimant. Moi, je veux remplacer ce message avec l'espoir pour les jeunes. Premièrement, on a une identité, on a une histoire partagée. Et on devrait être fiers d'être Canadiens. Et deuxièmement, on peut réinstaurer la promesse du Canada pour tous nos jeunes. Et cet espoir, je pense, que va redonner un vote de confiance pour le Canada.
On parle avec Pierre Poilievre, qui est chef du Parti conservateur du Canada. Monsieur Poilievre, vous élevez vos enfants uniquement en français. Vous avez mentionné hier que vous n'allez pas vous représenter dans la circonscription de Battle River Crowfoot. Est-ce qu'on peut voir un Pierre Poilievre se présenter au Québec, ici en Capitale-Nationale? Il y a un bon filon conservateur et en Chaudière-Appalaches aussi.
Je pense qu'on a Jacques Tourbe à Chaudière-Appalaches, qui est un excellent député. Et à ce que je sache, il va se représenter.
Ça serait un scandale si vous preniez la place de Jacques Gourde. On ne se le cachera pas, là.
Un scandale, monsieur le président!
Il y a beaucoup plus de passion et de sang latin que moi. Donc, on a besoin de Jacques à la Chambre des communes. Je n'ai pas encore choisi l'endroit, mais ça va être un bon endroit de représenter.
Le Parti conservateur du Canada va plancher sur quoi dans les prochains jours, les prochaines semaines?
L'abordabilité. L'abordabilité, on a vu hier, le taux d'inflation alimentaire au Canada, c'est le pire dans le G7, 2 fois plus élevé que les États-Unis. Ça coûte trop cher, les épiceries. Les gens ne peuvent plus payer. Tout le monde ne sait pas qu'il y a beaucoup de taxes cachées que le fédéral impose. Une taxe carbone industrielle, une autre taxe sur l'essence. Les taxes industrielles s'appliquent, par exemple, aux engrains, à l'acier dans les équipements agricoles. Ça augmente le coût de nourriture. Le déficit de M. Carney est le plus grand dans l'histoire de notre pays à part de COVID. Et ça gonfle le prix avec l'inflation. Donc, il faut réduire le coût de l'État pour réduire le coût de la vie, couper dans la bureaucratie, les consultants, l'aide à l'étranger, les bonbons pour les faux réfugiés, couper tout ça pour réduire les impôts, les taxes, les déficits et l'inflation.
Vous avez un vote de confiance qui s'en vient bientôt. Qu'est-ce que vous visez là, comme vote de confiance en pourcentage? Est-ce que vous êtes... j'imagine que vous allez me répondre que vous voulez pas vous mettre de chiffres, mais est-ce que dans votre tête, vous avez décidé d'un niveau d'appui suffisant pour continuer d'être chef du Parti conservateur?
Je n'ai pas choisi encore un chiffre exact. Évidemment, le plus grand score, le meilleur, c'est pour unir notre parti et faire face au gouvernement et de nous présenter comme un gouvernement en attente. Donc, encore, je vais revenir aux conservateurs avec un message de l'espoir. J'ai déjà parlé de l'abordabilité, mais mon discours va m'adresser à ça, mais aussi à la sécurité sur nos rues. Je pense que c'est trop dangereux. Il y a trop de criminels libérés dans nos rues. L'un de nos messages au Congrès sera comment peut-on enlever les lois libéraux pour remettre les vrais criminels en prison. Et ça va nous donner la sécurité dans nos rues, parce que les gens prenaient pour acquis avant l'arrivée au pouvoir des libéraux. Ça serait une des thèmes principaux de notre Congrès.
En terminant, M. Poilievre, est-ce que vous avez eu la chance de regarder le match du Canadien de Montréal hier contre le Wild du Minnesota?
J'ai manqué ça. J'ai vu que c'était à la télé, mais mon équipe m'avait dans toutes sortes de réunions. Mais c'était un bon match.
Vous avez choisi la politique. Vivez avec, c'est tout. Pierre Poilievre, ça a été un plaisir.
OK, merci, monsieur.
Au revoir. Passez une belle journée. Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, qui, somme toute, n'est pas trop critique à l'égard de Mark Carney là, sur sa performance au Forum économique mondial de Davos.
Oui, moi, je retiens qu'il est d'accord sur le fond des choses.
Ouais.
Il émet quelques critiques. Il voudrait qu'on exporte plus nos ressources naturelles, etc. Mais sur le fond, il n'a pas été tellement critique. Mais ma question, oui ou non, bon, il n'a pas répondu oui ou non, là, puis les politiciens ne répondent jamais oui ou non. Fait que je m'y attendais. Mais ce que je comprends, c'est que lui ne serait pas allé carrément à Davos. Alors qu'il me semble que c'est quand même une réunion qui est pertinente cette semaine. Lui, il dit c'est des grands décideurs du monde, loin des gens qui prennent des décisions, puis c'est pas au Forum économique mondial de décider pour nous. Mais il me semble que le contexte actuel exige qu'on soit participatif dans ce genre de forum-là.
Mais c'est toujours plus facile, Jeff, quand t'es dans l'opposition, de dire « moi, j'aurais pas fait
ça,
j'aurais pas fait ça ». Mais dans cette circonstance-là, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Antonine, il y aurait eu sa place là-bas pour discuter, parce que c'est pas un gros partenaire majeur, mais c'est un partenaire moyen qui est quand même important. Puis on regarde le discours de Mark Carney, c'est partout sur la planète actuellement.
Oui, exactement. Puis il faut tisser des liens. On dit qu'il faut diversifier nos marchés, donc quoi de mieux que d'aller rencontrer les présidents, les premiers ministres des autres pays, surtout les pays européens. Il est quand même pris entre deux chaises présentement, Pierre Poilievre, Antonine, parce que tu peux pas trop critiquer Carney, mais il faut qu'il réussisse à dire comment il ferait différent. C'est pas facile, là.
Soyons honnêtes, là, les stratégies de Mark Carney ont été copiées un peu dans le cahier de jeu de Pierre
Poilievre. En effet, aussi.
Exact. Fait que c'est difficile de critiquer quand c'est ce que tu disais que tu allais faire. Autre élément qui me marque de la discussion, c'est... Parce que moi, ça me fascine à quel point le Parti conservateur n'arrive pas à percer au Québec. Puis je pense qu'il y a quand même un terreau fertile, mais il ne m'a pas donné la réponse que moi j'ai dans ma tête, évidemment. Là, il y a le congrès du Parti conservateur qui s'en vient. Puis là, on va entendre toutes sortes de propositions, de résolutions sur des affaires qui sont très, très loin des Québécois. Okay? Puis là, je parle de conservatisme plus social. Je pense que les Québécois ont eu vraiment de l'écoute pour du conservatisme économique.
Oui.
Mais quand on parle de thérapie de conversion, puis d'avortement, puis même quand M. Poilievre fait des petits tweets là, sur X là, pour parler de fêtes religieuses, puis nous dire que Jésus est ressuscité là, à Pâques, puis tout ça, toujours l'impression que le monde décroche assez rapidement au Québec, puis que ça peut faire partie de l'explication pour laquelle ça pogne pas. On n'est pas capable d'aller faire des gains du côté du Parti conservateur depuis les dernières élections.
On vous écoute les deux à midi, les amis.
À plus tard.
Dans On en genre, oui. J'imagine que vous allez revenir un peu sur cette entrevue avec Pierre Poilievre. OK. 9h38, on va faire une courte pause. Si vous avez des choses à nous dire, de l'information à nous transmettre, ça fonctionne par texto. 88 971 1021.
Marceau le matin.